Radio Barque, notre 15e avec pour invité Henri Martin, maire de Port-la-Nouvelle et premier vice-président du Grand Narbonne. On a évoqué juste un petit peu avant la pause les grands buffets de Narbonne avec des travaux importants que vous nous aviez commencé à nous décrire. Alors, peut-on conclure un petit peu sur ce qui va se passer dans les mois ou années qui viennent pour les grands buffets et ce bâtiment?
Mais disons que dans un premier temps, le mois prochain, le Grand Narbonne, le président du Grand Narbonne va choisir le lauréat du marché conception-réalisation, c'est-à-dire le projet qui lui semblera le plus cohérent en traitant l'ancien et en l'actualisant.
Pour la rénovation, quoi. Alors,
pour la rénovation.
Le relookage, en fait.
C'est relookage et intérieurement, donc, aller chercher dans les réseaux, tout
le côté technique déjà
dont
évoqué
je vous ai parlé. Voilà. Et ensuite, donc, du côté de M. Privat, qui souhaite avoir des superficies complémentaires. C'est aussi une marge de négociation que se réserve le maire de Narbonne, car je voudrais rappeler que le bâtiment et agglomération Grand Narbonne et les parkings et les terrains périphériques appartiennent à la ville
reste,
de Narbonne.
Restent voilà. municipaux.
Restent propriétaires de la ville de Narbonne. Donc, les octrois de surface plancher complémentaires pour M. Privat dans l'espace couvert et clos font l'objet d'une négociation spécifique et à l'extérieur pourront, dans l'avenir, faire l'objet d'une négociation complémentaire. Voilà. Mais je vous dis, le dialogue s'est rétabli de façon constructive, envie de bien faire des deux côtés, et je suis persuadé que nous arriverons à nous entendre pour l'avenir. 2 ans de travaux prévus.
Oui, 2 ans quand même.
2 ans de travaux.
Avant que les grands buffets ne soient dans leurs nouveaux locaux.
Voilà, et surtout de cohabitation entre les grands buffets qui vont continuer à fonctionner, et puis le reste du chantier qui se déroulera autour. Voilà. Donc je crois qu'on devrait arriver à quelque chose de pertinent en 2026.
Mais avec un agrandissement donc pour les grands buffets.
Il est possible que les grands buffets puissent avoir... Premier jet, le maire de Narbonne a parlé de 200 mètres carrés. Monsieur Privat souhaiterait environ 1000 mètres carrés de plus. Ce n'est pas demain matin qu'on va pouvoir donner la réponse à cette sollicitation, mais il est évident que nous allons y travailler et voir si, sur d'autres espaces appartenant à la ville, il y a une possibilité d'extension complémentaire.
Oui, voilà. Alors maintenant, revenons à votre commune, celle dont vous êtes maire, Henri Martin. Et c'est une commune, Port-la-Nouvelle, alors qui est un port depuis 2 siècles, je crois, à peu près, non ça...
C'est un port depuis l'Antiquité, M. Jules.
Oui, bon, mais...
C'était l'avant-port de la Narbonnaise.
C'est vrai.
Par lequel ont transité les Phéniciens, les Phocéens, les Romains, qui nous ont amené le témoignage de leur
civilisation. Mais dans l'histoire moderne, je crois que c'est Louis-Philippe qui en a fait un port.
Hein, absolument. Hein, voilà. Bon. C'est d'abord Charles le Goudeau à Berchère.
Ah.
Qui est venu poser la première pierre.
Un archevêque, donc.
Exactement, l'archevêque de Narbonne, la Berchère, qui est venu poser la première pierre du Mol en 1704. Et à partir de là, dans la mesure où le lieu était béni, il est évident que tous les flux commerciaux ne pouvaient que faire prospérer ce port.
Alors, ce port est appelé... Alors, d'une part, en tant que port de mer, il est appelé à s'agrandir, à s'approfondir. Et puis, alors, surtout, ce qui est nouveau, c'est la construction d'éoliennes au large. Offshore, comme on dit, mais enfin, au large. Donc... Commençons par le port lui-même, le port classique avec ses navires.
Le port classique avec les navires, je reviens un petit peu en arrière dans les années donc 2010. Georges Frêche a eu l'intelligence de nous proposer, à la Narbonnaise, de restaurer ce port et l'inscrire dans une stratégie de port en eau profonde, car les tirants d'eau devenaient insuffisants pour les flottilles modernes de bateaux de commerce.
Donc au début, c'est la région,
Languedoc-Roussillon à l'époque. Au moment des transferts de propriété du port, qui, une fois le port pris en charge par la région, dit « il faut investir sur le port de la Nouvelle, sinon il va devenir obsolète, et sinon le geste économique aura été inutile ». Madame Delga, lors de sa campagne électorale, m'invite à assister à une réunion de rencontre qu'elle a sur le port. Elle ne se montre pas franchement décidée, mais pas du tout hostile non plus, et me dit, à partir du moment où nous aurons terminé un audit, une étude financière, nous verrons ce que nous allons faire. Et Madame Delga, et je la remercie bien entendu tous les jours, décide de poursuivre ce qu'avait décidé de faire Georges Frêche.
Après l'audit alors, au vu de l'audit.
Au vu de l'audit financier qu'elle a pu faire au niveau de la région. Elle arrivait sur un contexte qu'elle n'était pas censée connaître, puisque la grande région s'est bouleversée par rapport à la région de Frêche. Donc c'était tout à fait normal. Et à partir de là, donc, les travaux d'agrandissement du port sont décidés, à savoir que le tirant d'eau doit être porté entre 15 et 18 mètres pour accueillir les bateaux modernes, des bateaux plus grands, plus performants, plus respectueux de l'environnement. Voilà toute la philosophie du projet. Il se trouve que il y a eu un alignement de planètes, puisque Madame Langevin, qui représentait l'autorité des écologistes du secteur, était donc colistière de la présidente d'Elga, et elle a permis, avec ce projet d'éolien offshore, de donner une carte complémentaire de visite au port de la Nouvelle, en disant ce sera donc le port où seront assemblées les éoliennes qui seront bâties au large.
Mmh. Et alors, le fait que la région s'agrandisse et qu'elle devienne l'Occitanie actuelle pour capitale Toulouse, est-ce que ça a aidé un petit peu à faire de Port-la-Nouvelle une sorte de port naturel méditerranéen de la capitale Toulouse? Oui, bien sûr.
C'est évident. Et dès que les Toulousains...
C'était un atout supplémentaire.
Ah oui, absolument.
L'attractivité a explosé.
Et puis, je vais vous dire, dans l'histoire, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les chambres de commerce de Toulouse et de Castres qui sont venus au secours du port, puisque quand les Allemands sont partis, tout était en vrac, et ils sont venus donner un coup de main pour relancer le port. Et c'est la Chambre de commerce de Narbonne qui, en 1949, prendra la concession pour 50 ans. Mais les Toulousains étaient déjà là à cette époque-là. Et puis, bon, c'est une plage naturelle des Toulousains, comme le sont Gruissat, Narbonne, Le Catte. Il y a un flux toulousain qui vient. Et je me souviens des premières visites que les économistes toulousains sont venus faire sur le port. Ils étaient ébahis, ils étaient ravis de voir ce nouvel outil pouvoir être relié à la capitale régionale.
C'était de l'air marin jusqu'à Toulouse.
Quoi. En quelque sorte.
Alors, un petit mot encore sur l'extension du port, puisqu'il s'agit d'abord de permettre à des navires plus gros de venir. Ça sera pour quelle sorte de trafic? Étant entendu qu'aujourd'hui, le trafic est essentiellement, je crois, pétrolier, céréalier.
Quel sera le trafic? La géopolitique de l'arc méditerranéen étant tellement turbulente qu'on ne peut pas parler de quel trafic. Simplement, les outils de transport étant performants, on a le droit d'espérer à toucher à tous les trafics.
Oui.
Y compris revenir au bonheur céréalier qui, un jour, a flirté avec le million de tonnes. C'était quand même extraordinaire. Et pourquoi pas demain?
Oui.
Si les bateaux sont suffisamment performants. Alors, autre intérêt d'avoir ces nouveaux navires, c'est que donc les vieux caboteurs qui fréquentent aujourd'hui le port de la Nouvelle seront déclassés, puisque demain ou après-demain, c'est-à-dire en 2030, à partir de 2030, les bateaux qui vont rentrer dans les ports ne pourront plus s'autosuffire en matière d'énergie. Ils vont être branchés à quai. Donc ça demande des installations énormes sur les navires en question, qui ne vont plus laisser la machine en route comme ils le font maintenant, en émettant du soufre et tout un tas de saletés.
Donc ils arrêteront la pollution.
Ils ne pollueront pas un gramme de pollution sur le port. Voilà.
Oui.
Donc c'est quand même important aussi
pour
la cohabitation.
Pour les habitants.
Avec les habitants et les touristes.
Oui, voilà. Et alors, donc, maintenant, on entre sur les éoliens, alors dont apparemment on doit la paternité à Madame Langevin, si c'est selon ce que vous avez expliqué.
On lui doit beaucoup et je me plais à le rappeler chaque fois que j'interviens et qu'elle est là. Ça ne veut pas dire que Madame Langevin et moi, on puisse être d'accord sur toute la façon dont
elle est écologiste, vous l'avez souligné.
Voilà. Mais pour la Nouvelle, elle a été.
Voilà. Donc là, vraiment, le projet est en route. Alors, rappelons-le, il y a d'abord une expérience, une ferme expérimentale.
Deux fermes expérimentales. Une au large de Le Catte, une au large de Gruissat, qui donc vont avoir trois machines chacune.
Mais toutes les deux dépendant de Port-la-Nouvelle.
Dépendant, entre guillemets, montée à Port-la-Nouvelle.
Montage,
montée
oui,
à Port-la-Nouvelle.
Pour le montage.
Celle qui est pilotée par QR et qui va être au large de Gruissat est un peu plus nouvelloise et régionale que celle qui sera au large de Le Catte, puisque c'est une entreprise qui s'appelle Matière, qui est une entreprise de la région qui fournit tout ce qui est tôlerie, ferraille, qui arrive donc sur le port, et les flotteurs sont assemblés. Aujourd'hui, il y a trois flotteurs qui sont en train d'être assemblés. Pour ce qui est du projet Le Catte, qui est un projet EFGL, CNJ, les flotteurs arrivent de Foss, sont assemblés à Foss, et les machines seront montées sur le port également, sur le même quai d'ailleurs, le quai qui dit quai lourd, où seront assemblés les trois éoliens de Grissan. Voilà, trois et trois qui seront implantés à 16 km, 16-18 km des côtes.
Oui, donc ça, c'est l'expérience, on va dire, les fermes expérimentales, oui. Pour voir ce que ça donne. Alors, rappelons donc que c'est de l'éolien flottant, donc oui. À 15-16 km. Il y a donc d'énormes flotteurs qui vont porter des axes qui mesurent combien de hauteur ?
La hauteur de la pale, lorsqu'elle sera en l'air, sera à 198 mètres du niveau de l'eau.
La pale supérieure.
198. Et c'est une construction qui va se faire dans le port et qui va être remorquée au large.
Qui va être remorquée.
Donc il va y avoir un côté spectaculaire sur le chantier qui va être absolument extraordinaire.
Bien entendu, oui. Le départ d'une éolienne qui fait 200 mètres de hauteur, c'est faramineux rien que de l'imaginer auparavant.
Absolument.
Oui, absolument. Oui. Voilà, alors donc, on sait... Alors, pour le moment, on est dans l'expérience. Elle est limitée sur à quelle durée de temps, cette expérience ?
Elle est symbolique. Elle est symbolique puisqu'elle est là pour tester les matériaux et les matériels des deux compagnies que je viens de citer. Mais elle a valeur quand même de repère peut-être pour les fermes futures qui feront appel vraisemblablement à des machines encore plus puissantes et peut-être encore plus hautes. Donc le côté expérimental... ne préjuge en rien, et je pense que déjà les choix ont été anticipés, des machines qui seront montées dans 3-4 ans au moment où les tirages au sort auront été, où les choix gouvernementaux auront été accomplis, c'est-à-dire à l'automne 2024.
Oui.
À 2024, on connaîtra les gens qui bénéficieront de cette possibilité d'extension de 250 MW et plus une extension à 500 MW lors d'un deuxième appel d'offres en 25.
Oui, alors là, quand on parle de tous ces mégawatts, je pense que l'auditeur moyen n'y entrave pas grand-chose. Par contre, si on lui dit « ça fait tant d'équivalents population », est-ce que vous avez une fourchette là ?
Alors, si on parle d'une extension à 500 MW, lorsque les deux fermes commerciales seront en pleine exploitation, on parlera de 1 million d'habitants ravitaillés.
Ah oui.
Voilà, donc... C'est-à-dire pratiquement les deux départements limitrophes à l'Espagne, plus un petit peu d'arrière-pays, arriégeois ou quelque chose comme ça.
Ah oui, donc là c'est pas rien.
Non,
là on est vraiment dans de l'économie verte, enfin dans
absolument,
de la production
absolument,
verte.
Absolument.
Et alors il est prévu aussi, on en parle, je ne sais pas si on a raison d'en parler à ce niveau-là, mais de la fabrication d'hydrogène,
oui.
Alors un des carburants du futur, avec pas mal de points d'interrogation aujourd'hui quand même.
Oui. L'unité de fabrication de Port-la-Nouvelle a vu sa première pierre posée au mois de juin 23, début des travaux septembre 23 aussi, et la livraison est prévue pour fin 2024. Cette unité de production, qui a valeur aussi expérimentale, mais de production pérenne, nous avons demandé, comme nous demandons à toutes les installations futures sur ce port, non seulement de ne pas polluer, d'être respectueuse de l'environnement, mais également de ne pas générer des périmètres de danger quant à la fabrication qui dépasseraient les limites de la parcelle sur laquelle elles sont implantées. C'est le postulat incontournable qu'a posé la mairie de Port-la-Nouvelle en préalable à toute négociation et à tout achat de terrain.
Donc ça ne sera pas une installation gigantesque.
Pour ces raisons-là, la production annuelle, là aussi, ça ne va pas beaucoup vous parler, ce sera environ de 6000 tonnes, soit 50 tonnes par mois, et environ 15 tonnes par jour. Et ce sont les 15 tonnes par jour qui sont stockées dans l'enceinte, qui génèrent une forme de danger, mais qui ne dépassent pas l'enceinte de l'opérateur.
L'enceinte, la limite dont vous parlez.
Voilà.
Oui. Un dernier point. Alors, on va fabriquer donc cet hydrogène par hydrolyse. Donc,
oui.
On a besoin d'eau.
Oui.
Il avait été dit, je ne sais pas si c'est un projet réaliste ou pas, qu'on pourrait réutiliser des eaux de stations d'épuration pour cette hydrolyse. Est-ce que ça tient la route ?
Ça fait plus que tenir la route. Le projet est encore à l'étude. L'ADEME a voté une enveloppe de subvention. Alors non seulement c'est l'eau de réut, puisque c'est le terme...
Oui, réutilisation,
par les
pour les technocrates, il faut savoir que la réut, c'est ça.
Voilà, il faut savoir que pour la nouvelle, on consomme 800 mm cubes d'eau par an environ, qui est fournie par BRL, et nous rejetons 600 mm cubes. Et l'usine a besoin de 200 mm cubes. Ah,
Donc on est dans les clous, là.
On est dans les clous, d'autant que le rejet se fait en milieu naturel au niveau du chenal, à peu près à l'endroit où, à l'axe de l'implantation de l'usine, de l'autre côté. Et, par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'en retour, il y a une chaleur fatale qui est produite par ce concept. chaleur fatale, comme le moteur de votre voiture quand vous le rentrez dans le garage. Le lendemain, le garage est un petit peu plus chaud. Et là, c'est la même chose. Donc là, récupération de cette chaleur pour pouvoir faire un réseau d'eau chaude sur la ville, réchauffer l'eau de la piscine, réchauffer les HLM, réchauffer le centre Francis Valls peut-être, et réchauffer tous les bâtiments municipaux. Voilà quel est le plan que nous allons essayer de mettre en place.
Voilà, voilà de l'écologie qui ravira...
Et qui est vertueuse, en allant à la ville.
Et qui ravira tous ces, fervents supporters. On marque, Henri Martin, une seconde pause.